Damien Bloy est mort, le Zeg Guest aussi. Bonjour à tous, ici Cowboy Étoile et je vous présente donc La Saison Culturelle, le podcast qui remplace Zeg Guest, qui était un titre en allemand et qui du coup, comme vous l'entendez, je le prononce mal, au moins avec La Saison Culturelle, pas de problème, c'est du français et j'annonce aussi clairement la couleur. Puisque je vais vous parler de ce que j'ai fait du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Bon, je vais tricher un peu jusqu'au 23 septembre. Comme vous le voyez, nous sommes déjà au mois de novembre. Et du coup, j'ai plus d'un mois de retard par rapport au planning prévisionnel de la sortie du podcast. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment un épisode à la Zeg Guest. Avant de justement révolutionner un petit peu le pâté et de faire un truc vraiment comme ce que j'avais plus l'envie de faire pour la saison culturelle, c'est-à-dire en plusieurs parties et une diffusion possible sur YouTube. Alors voilà pourquoi ce retard. Ben, depuis le mois de d'août, en fait, il y a eu le 27 sur 24 à préparer mes vacances, la rentrée, mon anniversaire, et du coup un peu plein de choses, et au moment d'enregistrer, je me situais dans une période assez basse pour moi, où je ne me sentais pas l'envie de prendre le micro pour parler de ce que j'ai fait, et voilà. Donc forcément j'étais un petit peu dans le négatif et tout se mélange, j'ai pas pris vraiment de notes au fur et à mesure de ce que je faisais, et du coup il fallait vraiment que je fasse ce podcast pour me tenir vraiment à ma règle de je fais un podcast bien à peu près tous les trimestres et tant pis pour le reste. Donc voilà, je tiens à m'excuser auprès de tous les auteurs que je vais peut-être évoquer si je me trompe dans la formulation de leur œuvre. Comme je l'ai dit, j'ai pas forcément pris de notes à la volée correctement. Et du coup, c'est un peu compliqué de tout reprendre, puisque justement, avec ce que j'ai fait là depuis septembre, eh ben j'ai un petit peu toutes mes notions qui se sont mélangées. Et justement, normalement, je ne devrais pas buter sur ce que je vais vous parler de la semaine, enfin pas de la semaine prochaine, mais dans le prochain épisode. Les romans. Je vais déjà faire une auto-référence au premier épisode du Zeg Guest qui a donc résumé l'année culturelle, enfin le début d'année culturelle, c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin 2016. En parlant de la pire personne au monde. Voilà, je m'étais donné comme objectif de relire ce livre. Et en fait, ce livre est tellement malsain que j'arrive pas à me mettre dedans, j'ai abandonné au même endroit. Je l'ai emmené en vacances à Barcelone, mais je pouvais pas, j'étais pas dans le bon état d'esprit, peut-être, ou l'auteur, Douglas Coupland, était tellement loin dans les préoccupations que je voulais qu'il aborde, que du coup j'ai pas réussi à aller aussi loin que ce que j'ai lu. Disons que dans la construction du roman, c'est vraiment un peu ce qui m'intéresse, c'est justement une histoire avec des chapitres courts et des informations pratiques qui incitent à la sérépendivité. Découvrir des choses sans qu'on veut vraiment les découvrir ou on les découvre par hasard. Donc voilà, c'est vraiment sur le côté narcissique que ce livre m'a gonflé. J'ai lu à peu près 200 pages, 200, voilà, et puis basta quoi, j'ai pas réussi à aller plus loin. Donc voilà. En juin, c'était aussi la période de Japan Expo, et j'ai pu voir The Netto Fox, qui était derrière un stand, et je lui ai dit que j'étais un poil déçu en fait de Sword Art Online, que je trouvais ça trop axé sur la bagarre, et il m'a conseillé de lire Log Horizon. Donc Sword Art Online, on en a déjà parlé dans le précédent épisode, et du coup Log Horizon et Sword Art Online sont un petit peu dans la même veine, où on est dans un jeu vidéo sans possibilité d'en sortir, Faut savoir que je suis quelqu'un qui lit peu et qui met beaucoup de temps. Et j'ai lu les 480 pages. Peu de choses près de Log Horizon en 2 mois. Et j'ai même demandé le tome 2 pour mon anniversaire et je l'ai eu. Donc voilà, maintenant il faut que je le lise, chose que je n'ai toujours pas commencé. J'ai beaucoup aimé ce livre, l'histoire en général, parce qu'on est dans une mentalité différente. On n'est pas à faire des combats à longueur de page, hein. Le style d'écriture me convient mieux. J'avais pas trop l'impression de me faire chier ou... Justement, là, on est dans la construction d'une société qui se construit en marge de combat. Du coup, on a pas mal de problématiques qui sont abordées et que l'on n'a pas forcément quand on joue à un jeu vidéo. Comme le rôle, justement, des PNJ ou de la retranscription de ce qui se passe dans un monde réel, dans un monde virtuel. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses comme le monde de la magie, enfin les transports magiques qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus. Comment pallier à ce problème ? Donc voilà, même si vous n'aimez pas les MMORPG, ce que je peux comprendre, foncez sur ce livre. Même si vous n'avez aucune notion de jeu vidéo, vous pouvez vous y retrouver assez facilement. Juste avant de partir pour Toulouse, enregistrer le 27 sur 24 et aller aussi en vacances à Barcelone, je me suis pris un livre qui, d'ailleurs, j'ai pas du tout commencé à lire, j'en ai lu juste 2 pages et c'est anecdotique. C'est L'attrape-cœur de Steininger. Je voulais lire ce livre au bord de la plage, sauf que en arrivant à Barcelone, j'ai chopé des coups de soleil et du coup j'ai dû abandonner ce livre. Et je me suis dit, bon ben, toutes mes vacances, je vais devoir les passer à l'ombre. Donc j'ai fait pas mal d'explorations urbaines et de visites de musées aux alentours de l'auberge de jeunesse où je dormais. Du coup, je vais laisser bien au chaud L'attrape-cœur de Steininger pour Log Horizon tome 2. Hein. Et je suis même pas sûr de pouvoir le lire cette saison. Voilà, maintenant que la partie des romans est terminée, je vais pouvoir m'attaquer au manga. Donc, je vais pas vous mentir, c'était durant. J'ai commencé durant la période de Japan Expo. Donc, il y a justement des personnes dont je vais vous parler qui sont des amateurs, qui ont beaucoup de talent et je regrette que justement ces personnes-là ne percent pas forcément dans les grandes éditions et qu'elles font tout ça par passion avec de l'auto-édition. Même si c'est un autre terme, je vais plutôt privilégier le terme de manga, même si je crois que c'est le terme de doujin pour tout ce qui est BD amateur de style manga. Quoi qu'il y a aussi les fanzines, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et pour justement que tout le monde soit au même niveau, parce que ce sont vraiment des personnes qui ont beaucoup de talent. Et voilà, pour moi, c'est aussi de la BD. C'est un média entre la BD et le manga qui est aussi qualitatif que de la manga sur des histoires qui sont assez courtes. Et ces personnes ont beaucoup de talent. Alors, sur les 3 mois, j'ai à peu près lu une vingtaine de tomes, une bonne grosse vingtaine de tomes. Un tiers, c'est un peu un défi que je m'étais fixé, c'est du Belzébub, et puis après le reste, justement, je vais vous en parler. D'ailleurs, je vais vous parler de Belzébub après. On va parler tout d'abord d'Abunai. Alors, d'après Google, ça veut dire « dangereux » en japonais. C'est le studio Oblivious Carré qui a créé cette œuvre de 5 tomes. C'est composé de Dao Kizuma, il a changé de nom entre temps, de Sushi, de Chako, désolé si je le prononce mal, et de Biscuit. Donc voilà. Alors c'est composé justement de 5 tomes plus un hors-série que je n'ai pas lu. Sur la vie de 3 filles qui réalisent un fanzine pour la Japan Expo, convention qui ressemble très étrangement à la Japan Expo. On a toutes leurs aventures entre les éditions et ce qui se passe pendant. Comme les fins de bouclage, assez limites pour avoir les fanzines le jour J, et la vie en colocation ou au travail. Il y a des moments où j'ai rigolé comme un idiot, pour rien, hein, j'ai presque... Parce que, voilà, pour être honnête, il y a aussi du comique de répétition. J'ai presque tiré aussi ma larmichette à certains endroits, notamment à la fin, quand l'histoire de fond de ces 5 tomes se conclut, se dénoue. Alors, j'ai peut-être un petit truc à dire, c'est que justement, la lecture est assez compliquée parce qu'elle est sous forme de strips verticaux, puis de BD un petit peu plus conventionnel. Mais voilà, une fois qu'on a compris, ça se lit assez facilement et assez vite. Voilà. je peux plus vraiment vous dire de foncer de vous l'acheter, puisque en août, Biscuit, la personne qui se charge d'être à toutes les conventions pour les vendre, a dit que tous les mangas ont été vendus, enfin tous les tomes qu'elle avait ont été vendus. Voilà, donc c'est un peu dommage. Si vous connaissez quelqu'un qui a justement Abunai, demandez-lui de vous les prêter pour les lire, parce que c'est à mon sens une petite pépite. Voilà. En fait, si j'en parle pas vraiment plus, c'est parce que déjà il n'est plus en vente. Et c'est aussi une pépite, c'est vous en parler, c'est devoir dire des choses qui doivent révéler un petit peu l'histoire, et j'ai pas trop envie de la dévoiler devant vous. C'est quelque chose que vous devrez découvrir par vous-même, parce que justement je serai obligé de dire ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait pleurer, et j'ai pas trop envie justement de dévoiler tout ça dans un podcast. Parce que ce sont des choses qui me sont totalement personnelles. Même si, justement, ce que j'évoque, c'est un peu personnel. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose. Si vous avez l'occasion de vraiment de trouver ce livre et de le lire, lisez-le. Parce que, voilà, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Parce que, justement, c'est touchant, c'est... Voilà, c'est l'histoire, certes, de 3 filles, mais c'est aussi l'histoire d'amis, le graphisme est soigné, il est... voilà, c'est quelque chose, l'objet en lui-même est assez intéressant. D'ailleurs, le fait que ça soit quelque chose qui se lit pas comme tous les mangas ou comme toutes les BD est aussi intéressante, parce que c'est une prise de risque qui est pas mal et qui, en soi... doit être aussi regardé en tant que tel. Même si l'histoire peut paraître... je vais pas dire cucu, parce que je vais vous parler d'Ice Cream de Miss Papercard juste après, où là l'histoire est un peu plus cucu aux premiers abords. C'est vraiment... Enfin, Abunai est vraiment une histoire où on a justement des anecdotes de ce qui se passe avant, pendant et après un événement assez important, où on rencontre aussi des fans, des choses comme ça. Et c'est entre guillemets casser le quatrième mur en se mettant du côté des créateurs, pas des fans. Donc là, on a aussi une petite vision de, ben voilà, que fait justement nos créateurs, nos auteurs, de ces amateurs, hein, de l'autre côté de la table, juste après, enfin juste avant l'événement et juste après, et puis pas au moment où ces personnes écrivent les scénarios, mais voilà, les vacances ou la vie au travail, des choses comme ça, la vie en colocation, les études. Donc c'est quelque chose qui est assez feuilletonnant et qui prend aussi toute une durée. Alors maintenant, je vais vous parler de Miss Papercat. Alors elle est dans la même lignée que justement le studio Obvious, carré, où justement c'est une amateur. chanteur qui a beaucoup de talent et qui essaye de justement faire en sorte de vivre justement de son art. Avec justement Ice Cream, qui est une histoire qu'elle a prévu de faire en 5 tomes, et elle en a déjà fait 4. Chaque tome sort à peu près à chaque un tome sort chaque année. Donc voilà, elle a un dessin qui évolue vu qu'elle fait toute seule, qui évolue à chaque tome. On a l'impression de découvrir de nouveaux personnages. C'est non seulement à cause du dessin, mais aussi par les choix qu'elle donne à ses personnages. Alors justement, l'histoire, elle peut être cucu hein, au premier abord, parce que voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans, qui est orpheline, qui vit chez son oncle. Sa tante attend un enfant et du coup, elle veut aider financièrement sa famille. Sa nouvelle famille l'arrivée de l'enfant parce que elle a l'impression que financièrement elle est un poids pour son oncle et pour sa tante, et du coup bien qu'elle soit étudiante, elle va rechercher un travail, et en recherchant dans ses affaires, elle trouve une carte pour d'une agence de mannequinat, et justement elle va se lancer à l'aventure. Elle passe l'entretien, bien. Et la personne avec qui elle va bosser, c'est le mannequin le plus tendance de sa génération. Et cette personne-là a un petit peu l'envie de... Enfin, est assez arrogante, assez capricieuse. Et elle va faire en sorte que, justement... notre jeune héroïne soit sous son aile, sa protection, et soit sa petite amie. Sauf que c'est plus compliqué que ça. On apprend que ces deux mannequins sont liés par un même secret que l'on développera, que je ne vais pas développer parce que c'est développé dans ces 4 tomes, et qui c'est un truc qui est assez douloureux et on comprend pas au premier abord que l'un et l'autre ne s'en souviennent pas. C'est quelque chose de refoulé. Et donc voilà, c'est toute leur histoire est vraiment intéressante, même si là j'ai pas mal spoilé. Je crois que c'est vraiment très intéressant de regarder Ice Cream, justement pour voir l'évolution de Pepper au dessin. Faut aussi se dire que c'est une très bonne scénariste. À la fin de chaque tome, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a toujours un petit élément qui renverse la vapeur à chaque instant. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous incite à aller voir son travail. Il y a des scènes vraiment de suspense qui me font douter sur les réelles intentions de chaque personnage. Quand on croit comprendre une situation, paf, il y a un petit quelque chose qui déclenche une nouvelle intrigue. Pepper est vraiment une forcenée de travail hein, quand on voit la taille de ses deux premiers tomes, et ben les deux réunis ne font pas la taille du dernier, enfin du quatrième tome. Donc voilà, elle met vraiment les bouchées doubles, c'est quelque chose, c'est j'apprécie grandement son travail. Elle a, vu que le mois d'octobre vient de se terminer, essayé de regarder ses Inktober, ses dessins qu'elle faisait journalièrement. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Elle a utilisé des dessins en noir et blanc, et elle a rajouté comme autre couleur le jaune, et c'est quelque chose qui vraiment est assez ça donne une autre dynamique. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu d'autre, j'ai lu justement Belzébub, À l'origine, je devais lire les 28 tomes de ce manga durant la saison. Sauf que, voilà, j'étais pas super inspiré, j'étais pas super motivé non plus parce que c'était pas le manga le plus transcendantal non plus. Et du coup, je les ai tous empruntés à la bibliothèque. D'ailleurs, la bibliothèque nous prête tous les tomes du manga d'un seul coup pour faciliter la gestion, tout ça. Donc du coup, j'avais les 28 tomes. Et puis, justement, je devais les lire. Et ben, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Au départ, je me suis dit, plein de volonté, je vais tous les lire, un par jour. Et finalement, ça s'est éternisé. L'histoire ne me plaisait pas si... pas tant que ça. Bien que ça soit l'histoire d'un enfant, d'un démon qui est sur Terre et qu'il... va avoir un gars semblement qui est l'adolescent le plus fort de son lycée pour justement qu'il s'occupe de son éducation, mais après oui voilà quoi, il y a des scènes de baston pour prouver que c'est qui le plus fort, des scènes où justement on est dans la vie quotidienne avec le bébé qui pleure, qui a besoin d'attention parce que c'est un bébé. Les scènes dans la salle de classe, voilà, après c'est une routine, j'ai pas trouvé ça vraiment palpitant, donc pour l'instant j'ai laissé un petit peu à l'abandon au bout du 12e tome, donc voilà, et puis je sais pas, pas en hiver, parce que j'ai pas mal de lectures en retard, mais sans doute au printemps, je vais refaire toute la saga en entier et essayer de prendre justement des notes et faire justement un épisode spécial justement sur Belzébub et je pense sur d'autres sagas. Hein. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? J'ai aussi lu le premier tome de Psychopass. Donc ça se passe dans le futur, une sorte de Minority Report avec une brigade du temps qui est là pour justement empêcher que les crimes se produisent. Oui, pas sans sas, hein. C'est pour ça que j'ai lu que le premier tome. Je dis pas que je vais lire la suite, mais pour l'instant je vais laisser un petit peu de les tomes s'écouler parce que voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Suite à la recommandation de Lemon June que je suis sur sa chaîne YouTube, j'ai aussi acheté le premier tome de Yotsuba. J'ai pas accroché tout de suite. Alors voilà, c'est le premier tome, hein, c'est pas le tome qui finit toute l'histoire. Mais pareil, je pense que je vais prendre un moment pour le lire tranquillement. J'ai appris que cette série était aussi à la bibliothèque, donc je pense que je vais l'emprunter directement plutôt que de les acheter et de les lire. J'ai trouvé qu'il y avait une profusion en fait, il y avait tous les personnages d'un coup qui débarquaient et puis justement. L'histoire, il n'y avait pas vraiment d'histoire, et c'est ça que je reproche un petit peu, c'est des scènes de vie un peu comme ça, et mais peut-être que je me trompe et que j'étais pas dans le bon esprit quand je l'ai lu. C'est aussi c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que quand j'achète un manga ou un livre, c'est parce que je me projette d'être dans une sorte d'état mental où l'œuvre peut m'atteindre parce que je suis en capacité de l'accueillir. Or là, je pense pas que j'étais en l'état de bien l'accueillir. J'ai trouvé vraiment tout le monde tout d'un coup un truc vraiment hyperactif, pas quelque chose de très reposant. J'ai plus accroché sur un manga qui s'appelle Le mari de mon frère, où là aussi il y a une gamine qui est un peu hyperactive, tout ça, que sur Yotsuba. parce que dans Le mari de mon frère, il y a une histoire un petit peu plus profonde et on l'apprend dès le premier tome. Et aussi, il y a beaucoup moins de personnages que dans le premier tome de Yotsuba. Donc voilà, c'est déjà quelque chose. Mais Le mari de mon frère, je vais vous en parler en décembre ou en janvier quand je vais faire la saison culturelle numéro 3, automne 2016, c'est-à-dire septembre jusqu'à décembre 2016, voilà. Et justement, je vais vous en parler un petit peu plus à ce moment-là. Peut-être que le deuxième tome va être sorti et du coup, j'aurai un peu plus de matière à vous en parler. En fait, là, disons que ce trimestre, c'était vraiment plus découvrir des œuvres qui vont me faire plusieurs mois, plusieurs trimestres. Parce que justement, maintenant que j'ai acheté pas mal de mangas, il faut que je les lise. Et ça sera sans doute pendant l'hiver que je vais tous les relire individuellement, faire des fiches personnalisées sur chacun, les enregistrer, les publier. Et mais voilà, c'est un petit peu dans l'idée un petit peu de ce que je vais faire. Mais j'ai aussi lu, c'était toujours à la Japan Expo, je les ai achetés, c'est les premiers tomes de Noble Paysan. C'est des scènes de vie autobiographiques d'Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist, d'avant sa vie de mangaka. Donc voilà, c'est assez instructif. On découvre pas mal de choses sur la campagne japonaise. Hein, pas que toutes les campagnes se ressemblent, mais presque. Donc voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà, j'ai aussi acheté là du coup pendant cette période, enfin la saison qui se passe, quelques mangas. Et comme je viens de le dire, je vais être mollo sur les achats, je vais plutôt tous les lire tranquillement et refaire des fiches pour chacun et essayer de les présenter comme je peux et bien comme il faut. Est-ce que ça sera l'occasion de créer un nouveau podcast littéraire? Peut-être, je sais pas. Voilà. Maintenant, passons au film. Ce trimestre, j'ai vu 3 films. Un coup de cœur, un truc vraiment lourd et un truc sur Arte. Ouais, je sais, c'est mon petit côté beau. Alors, on va commencer par mon coup de cœur, qui d'ailleurs, j'ai pu l'acheter récemment en DVD et aussi le regarder très rapidement jusqu'à la moitié pour justement être sûr de bien vous en parler. C'est La Loi de la Jungle d'Antonin Perez-Jacquot. En théorie, je l'ai bien dit. Alors, c'est un film français qui raconte la vie de Marc Chataigne, un stagiaire du ministère de la Norme envoyé en Guyane pour superviser les travaux de la première piste de ski intérieure en Amazonie et relancer le tourisme. Il doit s'assurer que toutes les installations soient aux normes européennes, sachant que la Guyane, c'est en Amérique du Sud. Il va rencontrer Tarzan, une jeune stagiaire de l'ONF qui doit s'assurer de faire des jardins à la française pour les institutions nationales en Guyane, pour que justement les jardins soient bien à la française comme en métropole. Et ce film raconte en fait leur histoire dans la jungle, justement toutes les galères et justement comment Marc Chataigne va être retrouvé par son huissier de justice qui lui demande d'arrêter de faire le mort. Voilà, donc c'est un film qui joue beaucoup de l'administration. Ce film, je le trouve vraiment bien parce que justement il montre justement tout ce qui est orientation politique, que suivant d'un directeur à un autre, suivant l'alternance, tout ça, les choix politiques ne sont pas les mêmes. Et aussi justement tout un comique de situation vis-à-vis de l'administration, les démarches impossibles à réaliser, et le fait que justement ça soit en grève ou voilà, c'est une vraie satire de notre société actuelle et des choix arbitraux que l'administration en fait. Ce film joue beaucoup sur le comique de répétition. Il y a des scènes où justement c'est un peu lourd, mais justement Antonin Perez-Jacquot a fait en sorte que tout le monde comprenne que c'est bien du comique de répétition avant qu'il coupe ce comique pour continuer dans le film. Notamment une scène avec justement le directeur de cabinet du ministère de la norme qui parle à Marc Chataigne. Il se lève de son bureau, il va derrière Marc Chataigne, il est téléporté devant son bureau, il refait le chemin jusque derrière le siège de Marc Chataigne 2-3 fois. Voilà. Donc voilà, si vous aimez le comique de répétition, ce film est fait pour vous, pour diverses raisons, notamment l'introduction, hein, avec quelques clins d'œil comme ça, où justement, vraiment à l'introduction, c'est pendant les 52 teraoctets de logo, la production vous offre la musique. Alors faut savoir que 52 tetraoctets de logo, ça fait vraiment beaucoup, hein. Sur 52 teraoctets, justement, on peut enregistrer, je pense, 1000 films. Sur voilà, donc c'est pour dire, voilà, c'est un petit peu quelque chose de démentiel, des choses comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de clins d'œil sur l'administration, un petit peu comme ça, le côté très procédurier. Donc je pense que ce film, peu importe les raisons, vous allez vraiment rire, parce que ça me rappelle les vieux films avec De Funès dans les années 70, avec un comique de répétition un peu lourd, le film qui fait rire, qui est pas forcément drôle mais qui fait rire. Et du coup c'est un film qui est assez intéressant là-dessus, parce que justement c'est un film qui ne se prend pas vraiment au sérieux. J'ai été voir Nerve au cinéma lorsque j'étais à Montpellier, lors d'une formation à Montpellier. Et en fait, j'étais assez choqué de payer mon billet de cinéma 15 euros. C'est démesuré, parce que 15 euros, c'est à peu près le prix d'un DVD dans le commerce, hein. C'est la première fois que je vais dans un cinéma Gaumont, mais voilà, pour la marge, pour l'idée, je paye à peu près 8 euros un billet de cinéma à Nevers, moins avec les chèques cinéma. Mais voilà, c'est 15 euros, c'est démesuré. C'est pour les personnes, les jeunes, c'est pas approprié pour qu'ils aillent au cinéma ou leur donner l'envie d'aller au cinéma aussi. Je ne dis pas qu'il faut mettre des abonnements illimités, mais simplement baisser le coût de la projection serait sans doute une bonne chose. Pour revenir au film, alors pour moi, le film m'a donné tout de suite envie lors de la bande-annonce, hein, ça me promettait un film qui semblait assez prometteur, sauf que c'est une grosse bouse, hein. Même des mangas où le jeu s'oriente pareil sur des défis à réaliser sont mieux, hein, genre Dead Man Wonderland, Demon Game, que j'ai évoqué lors du précédent podcast, Sky High Survival. Ce sont des mangas qui fondamentalement ont un petit peu la même stratégie, où justement c'est des défis débiles où soit tu survis, soit tu gagnes de l'argent. Bref, ces mangas là ont un peu plus de personnalité et vont plus profondément que le film Nerve. Nerve, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi il est déconseillé au moins de 16 ans, je crois, parce que justement il y a pas tant de violence que ça. Si tu veux, certes il y a de mauvaises choses pour les enfants, c'est genre les défis sont complètement débiles, mais sinon il n'apporte rien, ce film. Il n'apporte rien. Il y a C'est juste un jeu. Niveau. Il est débile. On va dire que c'est pas mal. Richult en parle mieux que moi. Il a fait une meilleure critique sur le site Sens Critique. Il a fait quelque chose vraiment. Avec justement, elle montre tout le côté publicitaire de ce film, vraiment du placement de produits ou justement. Voilà, je vous conseille juste d'aller voir la critique de Richult. Vous aurez le même avis que moi. Elle l'a mieux formulé que ce que je peux faire. Parce que franchement, c'est débile. C'est débile. Le jeu, tu dois réaliser des défis pour gagner de l'argent. Si tu mentionnes l'existence du jeu, tu deviens un prisonnier du jeu. Non, ce jeu est clairement débile. Et il suffit que le meilleur ami soit un peu un pirate pour que justement, on va casser tout le jeu, faire en sorte que le jeu n'existe plus. Non, c'est débile. Même dans d'autres, dans les mangas que je viens de citer, ça se résolut pas comme ça. Ça se résolut pas non plus en une soirée comme le montre le film. Donc oui, c'est totalement, ce film est débile. Voilà mon argumentaire, il est comme ça parce que le film est aussi con que mon argumentaire. Voilà, j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce film, hein. Je vais plutôt m'attarder sur un autre qui a été pour moi plus bénéfique. Il s'agit du film Les Grandes Ondes à l'Ouest, diffusé je ne sais plus quand sur Arte. Ce film parle d'une équipe de radio suisse dans les années 60 qui va au Portugal pour faire des reportages sur ce que la Suisse a fait pour rayonner au Portugal. Le problème, c'est que sur ces reportages, ce sont que des petites bidouilles, pas grand chose à en tirer au niveau national, et qu'une révolution va bientôt éclater au Portugal. Alors ce film reste assez léger, hein. Je vais pas trop vous en parler parce que ça risque de vous divulgâcher le film. Ce sont vraiment des petits reportages, vraiment rien de fantastique, mais au fil du film on découvre que justement c'est un petit peu plus complexe que ça, et justement tout le film, toute l'histoire du film, c'est justement retracer leur épopée. Vraiment les enregistrements qu'ils ont pu faire pour ce film et réaliser, on va dire, leur reportage jusqu'au bout. Voilà, alors je vais passer maintenant à la musique. J'ai pas grand chose à dire, je vais vous parler après des expositions là où j'ai beaucoup plus de choses à dire. Sur la musique, j'ai pas grand chose à dire. J'étais à deux festivals cet été et j'ai écouté pas mal de musique sur les recommandations Flo ou 10h, donc du coup pas de CD en entier, donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que j'étais public et bénévole à l'Étang du Folk en juillet, un festival où c'était la seconde édition. C'était super sympa. J'avais un peu d'a priori sur le festival, mais finalement ça s'est bien passé. L'ambiance était chaleureuse et très amicale, vraiment proche, une vraie proximité, voilà, comme un concert avec des amis, des choses comme ça. Donc voilà, il y avait vraiment quelque chose comme ça. C'était pas un festival froid ou justement organisé par une grosse structure avec plein de personnes. Non, là c'était vraiment entre le petit festival avec deux scènes, certes il y avait deux scènes, mais avec aussi des exposants. C'était vraiment bon enfant. Voilà. J'ai passé un bon moment, c'était quelque chose d'assez sympa, les bénévoles étaient sympas. Les groupes de musique qui passaient aussi, c'était du rock, il y avait du folk. Voilà, c'était assez intéressant. Et le second festival que j'ai fait, c'est les Nuits Secrètes à Aulnoy-Aymeries, où j'ai redécouvert François and the Atlas Mountain. Dans un concert privé, il y avait une centaine de personnes à peu près, Et justement, c'était quelque chose vraiment intéressant. C'était vraiment, j'ai redécouvert un artiste parce que, mis à part la vérité qu'on entendait parfois à la radio, je m'intéressais pas trop à ce qu'il faisait. Et en écoutant le concert, j'ai redécouvert des morceaux que j'avais écoutés déjà à droite et à gauche sans savoir que c'était lui, et ça c'était pas mal. J'étais un petit peu déçu par les grands noms de la programmation, mais dans l'ensemble assez satisfait du festival, bien qu'il y ait eu quelques couacs, mais disons que cette année c'était la première édition où toutes les scènes étaient payantes. Et du coup, au niveau de l'organisation, ça jouait aussi, et il y avait aussi pas mal de ratés très vite rattrapés par l'organisation. Voilà, donc promis, pour cet automne, je retravaillerai un petit peu la partie musique. Il est l'heure pour moi de vous présenter la dernière partie de ce podcast, qui est les expositions. Alors, comme évoqué un petit peu plus tôt, je me suis cramé au soleil et j'ai décidé de passer deux après-midi entiers dans des musées qui sont à proximité de l'auberge de jeunesse où j'étais, qui sont le MACBA et le CCCB. Puis, dans le cadre de mon travail, on m'a invité à un vernissage justement le week-end du 22 et 23 septembre. Alors voilà, lors de ma première visite dans un des musées, qui était le CCCB, j'ai pu découvrir le Raymond Lulle dans une exposition qui mêle des œuvres d'art contemporaines et d'autres moins. C'est assez spécial en son genre. J'en suis ressorti avec une bonne opinion, sans doute à cause de l'audio guide qui était en français. Le travail sur Raymond Lulle m'a permis de savoir qui est Raymond Lulle déjà, un philosophe des années, ben, du Moyen-Âge, et toute l'œuvre autour, c'est simplement essayer de voir le travail contemporain qui a été plus ou moins inspiré sur son travail, l'art combinatoire. Donc voilà. La seconde exposition, c'est plus compliqué, c'était au MACBA. C'était sur 3 étages. Il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas. C'est ça le problème que j'ai remarqué hein, dans l'art contemporain. C'est que certes, c'est des choses qui sont sans doute belle, moche, ça on est libre de l'interpréter comme on veut, mais voilà, il faut aussi que ça soit accessible plus ou moins à tous. En fait, c'était dans le travail, dans l'accessibilité, j'ai trouvé que toutes les œuvres étaient assez spéciales en leur genre, et il fallait sans doute quelque chose qui les explique un peu mieux qu'elles-mêmes ou une simple description. Donc voilà, le travail d'Andrea Fraser aurait pu m'intéresser parce que il y avait des vidéos, il y avait des photos, mais j'ai pas trouvé de lien entre toutes ces photos, toutes ces vidéos. L'exposition, on va dire, temporaire de toutes les œuvres. Pareil, il n'y avait aucun lien, il n'y avait rien vraiment qui était en commun, donc j'ai pas bien saisi ce qu'était l'art contemporain. J'ai vu des œuvres, mais voilà, il n'y avait pas. C'était pas fantastique. Par contre, il y avait un truc qui m'a fortement intéressé et que j'ai trouvé pas mal, c'était l'exposition temporaire sur le punk et son inspiration sur l'art contemporain. Voilà, en fait, on avait plusieurs parties, une sorte d'évolution, et ça me faisait un petit peu penser à ce que faisait l'association La Soquette, qui est un bar associatif qui malheureusement pour l'instant est en travaux suite à un déménagement. Ils sont en train de réaménager un autre bar, Justement, ce bar associatif faisait des ateliers justement de création et notamment des affiches des différents événements. Et ça s'inspirait beaucoup de ce que j'avais vu des œuvres de 1960, même voire des années 70, où justement ça gribouillait sur des œuvres déjà existantes. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, c'est ça le problème. Et puis la dernière exposition, c'est au Centre d'art contemporain Saint-Léger, qui est dans la Nièvre, à Pouglezo. C'est la dernière exposition que j'ai pu faire. J'ai été invité dans le cadre de mon travail pour en parler sur les réseaux sociaux de mon employeur. Donc voilà, c'est la plus petite que j'ai pu faire et c'est celle où j'ai le plus de souvenirs parce que j'ai enregistré pas mal de choses sur mon micro. J'ai pas fait le montage, hein. Je sais même pas comment je vais traiter ces rushs. Peut-être que je vais les laisser comme ça et puis faire un petit montage. Donc voilà, c'est le travail d'une artiste britannique qui vit à Paris qui s'appelle Charlotte Meuf. Et en fait, son travail est particulier parce que c'est une rétrospective à ce qu'elle a déjà fait sur son travail. Et aussi, il y a un certain grain qui donne un certain aspect ancien à la photo, mais aussi, il n'y a aucune personne sur ces photos. C'est toujours des bâtiments ou des arbres ou des choses comme ça. Et du coup, on ne sait pas vraiment à quelle époque elle les a prises. J'ai reconnu un petit peu dans l'eau, dans une machine à diapositives qui diffusait des photos, justement quelques autres photos qu'il a étaient dans Nevers. Où justement, pareil, il y avait certains grains de la machine à diapositive plus la diapo en elle-même et voilà, c'est assez perturbant, on sait pas quelle photo a influencé telle autre et c'est vraiment, on est dans un espace de tranquillité. Faut savoir que le centre d'art contemporain Saint-Léger est dans une source, enfin dans les bâtiments d'un ancien casino et d'une source thermale. C'est assez bucolique, j'aime beaucoup l'endroit, mais je me demande pourquoi je n'y vais pas plus souvent. Et sans doute la raison, c'est parce que c'est un peu loin de chez moi et que j'ai pas envie de faire à chaque fois 40 km pour voir une œuvre ou quelque chose comme ça. C'est un peu décevant, c'est sûr, mais voilà, c'est peut-être la seule idée qui fait que voilà, je n'y vais pas plus que ça. Voilà, c'est fini la saison culturelle, épisode numéro 2, été 2016 est terminé. Je vous retrouve d'ici le mois de décembre ou janvier, suivant le temps, suivant comment j'ai avancé, pour vous présenter l'épisode numéro 3 correspondant à la saison automne 2016 de cette saison culturelle. Je vous laisse entre de bonnes compagnies de vos podcasteurs habituels et je vous dis à très vite. Bye !